Quel soulagement. Mais il faut se dépêcher. Dans les travées, bruissements et éclats de voix se font déjà entendre. Les 2000 curieux n'attendent qu'une chose, le lancement du concert. Le directeur de la Scala conduit Verdi dans les méandres des coulisses. Il ne le lâche pas d'une semelle. Le jeune homme de 28 ans à côté de lui semble comme anesthésié. Se rend-il seulement compte que c'est sa carrière qu'il joue sur ce coup? Le public et la critique, s'ils peuvent laisser passer un premier échec, ont tendance à ne pas pardonner un deuxième écart. Poussé par son ami, Verdi s'est lancé dans l'aventure de l'opéra Nabucodonosor, convaincu par la profondeur du livret qu'on lui a présenté. Merelli le sait. Verdi y a travaillé jour et nuit. Les costumes, les musiciens, tout est prêt. L'ouvrage n'a plus besoin que de son architecte. Au bord de la scène, dissimulé par les tentures lourdes et épaisses, le duo s'étreint sans un mot. Il n'en faut pas. L'amitié a cela de magnifique. Lorsqu'elle est sincère, durable, les émotions passent d'elles-mêmes. Verdi essuie une larme qui coule sur sa joue tandis que le directeur, une appréhension bien naturelle au creux du ventre, rejoint sa place. Il y observe les visages de celles et ceux qui ont fait le déplacement. Milan est, depuis 1815 et les conséquences du congrès de Vienne, la capitale du royaume de Lombardie-Vénétie. Un territoire fabriqué de toutes pièces, au milieu d'autres. Le but ? Maintenir en place le morcellement de l'Italie, et plus encore, à favoriser son occupation. Les Milanais, depuis près de 30 ans, sont habitués à voir marcher dans les rues ces officiers autrichiens, parés de blanc et de rouge. La parenthèse offerte par Napoléon Bonaparte aura été de courte durée. Depuis la défaite de l'Aigle, l'Autriche est de nouveau maître à bord. Autoritaire, ces dignitaires pratiquent à loisir la censure. Il n'est pas question, alors que partout ailleurs, les sentiments nationalistes s'affirment, de laisser passer la moindre œuvre révolutionnaire. La poigne de fer de l'occupant se resserre sur les arts ces dernières années. C'est parce que les milieux aristocratiques italiens se gorgent de plus en plus d'expressions nationalistes. L'Autriche prend peur. Elle n'est qu'au balbutiement de ses déboires. Nabucodonosor n'a pas échappé à cette lecture critique de l'occupant. Merelli, en observant l'uniforme clinquant d'un général assis non loin de lui, se souvient de ce moment lunaire où il a dû lire le texte de l'opéra devant un jury de censeurs. L'œuvre raconte un épisode bien connu de l'Ancien Testament qui met en scène les Juifs face à la cruauté du roi de Babylone. Pour évoquer l'une des sept merveilles du monde antique, Verdi s'est surpassé. Merelli sait que le travail de son compère, novateur, détaché des codes habituels de l'opéra, va plaire aux spectateurs. Il ne se trompe pas. Et mise en scène théâtrale subjugue la salle depuis plus d'une heure. Sur les quatre actes qu'elle comporte, deux sont terminés. Depuis les premières mesures, la foule semble animée de sentiments partagés. L'audience, du moins une partie d'entre elles, bouillonne. Et pourquoi ? Ni Verdi à son pupitre, ni Merelli dans la salle ne le comprennent. Pourtant, ils peuvent aisément le percevoir, eux aussi. Il se passe quelque chose dans les travées de la Scala. Voilà que s'achève maintenant le troisième acte de l'opéra. Son point d'orgue. L'attention à chaque mesure grimpe d'un cran. La cruauté des Babyloniens, le désespoir des Juifs et enfin, le paroxysme. Devant une audience totalement hypnotisée, le 11e et ultime numéro du 3e acte développe un message aussi saisissant que transparent. Inspiré par le psaume 137 du livre des psaumes, la scène marque l'histoire de la musique italienne. Le chœur des Hébreux entonne un air revendicatif, éminemment politique. Va pensiero est une longue plainte où l'oppresseur est dénoncé et où le peuple opprimé, dans une chanson prière engagée, se lamente au sujet de ses libertés perdues. Pour Verdi, l'exécution de cette fin de troisième acte est une révélation. Le chant de ses musiciens agit en lui comme un remède contre le désespoir. Le compositeur reprend goût à la vie, là, sous les dorures de la Scala. Les paroles chantées par les Juifs opprimés en exil provoquent dans la salle de très vives réactions. « Ô ma patrie si belle et perdue, ô souvenir si cher et funeste, harpe d'or des divins fatidiques, pourquoi muette, pends-tu au sol, rallume les souvenirs dans le cœur, parle-nous du temps passé, semblable au destin de Solime, joue le son d'une cruelle lamentation, ou bien que le Seigneur t'inspire une harmonie qui nous donne le courage de supporter nos souffrances. » De l'assistance ou sans sourcil. Ils comprennent immédiatement la portée politique du message véhiculé. Les aristocrates italiens, de leur côté, s'émeuvent. Des bruissements partout s'élèvent. Merelli, lui, est décontenancé. Tout comme le compositeur, il n'a pas compris la puissance potentielle de cette fin de troisième acte. Mais il est trop tard. Comme une traînée de poudre, Nabucodonosor s'apprête à envahir tous les chœurs italiens. Énorme succès populaire, la résonance de l'œuvre est totale. L'opéra est même créé à la Fenice de Venise à la fin de l'année 1842. Verdi, lui, passe un cap dans sa carrière. De relatif inconnu du grand public, l'Italien de 28 ans s'érige, bien malgré lui, au rang de symbole. Sa musique devient un hymne à la liberté. Sa consécration est peut-être la plus rapide de l'histoire de la musique, alors que politiquement, la botte est en pleine mutation. Pourtant, rien de tout cela n'a été anticipé par le musicien. Si son œuvre, rebaptisée Nabucco en 1844, est considérée comme son premier opéra patriotique, Verdi ne comprend pas la portée révolutionnaire de son travail avant d'y être confronté. Et pourtant déjà la grande histoire s'éveille. Cette soirée de mars 1842 trace les premiers jalons d'une période fondatrice pour le compositeur et son pays. C'est ce qu'on nomme le Risorgimento, la lutte vers l'unification italienne. Même lieu, quelques mois plus tard. Le flamboyant succès de son troisième opéra a permis à Verdi de renouer avec l'amour de l'écriture. Son incroyable popularité, surtout, a donné raison au directeur de la Scala du Milan. Bartolomeo Merelli n'est pas peu fier, même si la portée énorme de Nabucodonosor est encore loin de s'être essoufflée. Pire, voilà que l'impresario de l'Opéra de Milan se retrouve à devoir gérer les pressions venues des Autrichiens et de l'Église elle-même. L'homme bataille depuis des mois pour sauver sa saison. En cause, le nouveau travail de Verdi, son quatrième opéra. Il s'annonce explosif. Pourtant, la thématique développée est religieuse. L'œuvre intitulée « I Lombardi alla prima crociata » relate l'héroïsme des Lombards durant la prise de Jérusalem alors que se déroulait la première croisade. Il faut pourtant lire entre les lignes. Verdi, en utilisant cet épisode historique précis, souhaite faire passer un message clair. Les Italiens doivent s'unir pour bouter l'envahisseur hors de la péninsule. Merelli connaît les intentions de son ami. Il appuie cette décision. Cet opéra, c'est lui qui l'a commandé pour la Scala. Dans son énorme bureau, non loin des coulisses de l'opéra, il reçoit aujourd'hui le cardinal Gascrook. L'homme est le représentant du pape à Milan. Et autrichien de naissance. Un coup double. Le responsable ecclésiastique ne souhaite qu'une chose, faire interdire cette œuvre polémique. Le vieillissant ecclésiastique, une fois n'est pas coutume, s'égosille. Merelli a l'impression d'observer un chanteur en pleine répétition. Le directeur de l'opéra ne se laisse pas intimider, certes, mais il doit se rendre à l'évidence. Le pouvoir de nuisance de Gascrook appelle à la prudence et à la mesure. L'homme d'église n'a qu'un mot à la bouche. Censure. Dans 72 heures, le 11 février 1843, la première du dernier-né de Verdi va se tenir. Le cardinal souhaite que certaines parties de l'opéra soient supprimées. Mais il fait face à un mur. Le directeur a bien tenté d'obtenir quelques concessions de la part de Verdi, mais le compositeur a refusé. Net. Dès lors, Merelli s'est rangé derrière la volonté de son poulain, contre le Saint-Siège, et pire, contre le pouvoir. Ce qui gêne les censeurs, plus que toute chose, est un cœur durant lequel les Lombards évoquent l'amour de la liberté. « Oh, signore d'alte tonaccio » est une ode et un message. Les Autrichiens ne s'y trompent pas, ce texte vise à donner aux Milanais des idées d'indépendance. Et face à la poudrière sur laquelle ils sont assis, le risque est bien trop important. Mais Verdi est devenu une véritable star. Assez pour que la censure ne puisse pas s'abattre sur lui de manière autoritaire. Comme d'habitude, le cardinal repart bredouille. Et la première va bien avoir lieu. Verdi, avec ce quatrième opéra, est au sommet de son art. Il obtient un véritable triomphe de la part des spectateurs. Le compositeur est acclamé, tout comme les chanteurs, par des rappels vifs, qui s'étalent durant de très longues minutes. Merelli en est persuadé. Le message est passé. La notoriété de Verdi, elle, continue d'exploser. Le compositeur va devenir une figure de proue. L'Italie, morcelée, occupée depuis des temps immémoriaux, s'apprête à se dresser contre ses oppresseurs. La guerre d'indépendance, elle, est dès lors inévitable. Vers l'unification italienne commence après la chute de Napoléon Ier. L'empereur des Français, défait en 1814, tente un retour quelques mois plus tard en s'échappant de l'île d'Elbe. La défaite de Waterloo met un terme à cette parenthèse des 100 jours. Et l'Europe doit faire face à un défi immense, façonner un nouvel équilibre politique, diplomatique et économique sur le continent. Il faut donner un nouveau souffle à l'Europe, redéfinir ses frontières, et raffermir le pouvoir des monarchies autocratiques. Le congrès de Vienne est le moment diplomatique où tout se joue. Le sort de l'Italie est une des questions centrales qui occupent les vainqueurs. Sous domination française depuis le Directoire, le pays dispose d'une place stratégique sur l'échiquier européen. Napoléon l'avait bien compris. Lui qui s'était fait sacré roi d'Italie, et avait conféré à son héritier le titre de roi de Rome. L'Autriche, avant de subir des dérouillés majeurs lors des campagnes d'Italie menées par Bonaparte, disposait de l'autorité sur une bonne partie de la péninsule. Dès lors, à Vienne, elle veut reprendre la main et retrouver ses anciens attributs. On lui accorde le contrôle d'une grande partie au nord. Elle occupe notamment le royaume de Lombardie-Vénétie, dans lequel se trouvent Milan et Verdi. Ce choix n'est pas anodin. Ce territoire est riche au niveau agricole, assez pour que les prélèvements qui y sont faits nourrissent une bonne partie de l'Empire. Mais l'ambition autrichienne ne s'arrête pas à la Lombardie-Vénétie. Si elle ne contrôle pas de manière directe le reste des duchés, elle place des dignitaires de l'Empire à leur tête. C'est le cas à Parme, Modène ou en Toscane. Le sud du pays, lui, est confié à la maison Bourbon des deux Siciles, alliée des Autrichiens. La Sardaigne devient une zone tampon dirigée par les Savoies. Reste le centre de la botte qui, lui, revient au souverain pontife. Le pape retrouve les états pontificaux d'antan et sa place centrale sur l'échiquier du continent. En somme, c'est un retour à l'ordre monarchique qui s'opère sans prendre en compte ce qui a pu se passer durant la Révolution et l'Empire. Cette décision, c'est moins que l'on puisse dire, n'est pas du goût d'une bonne partie de l'élite italienne, bercée par les idéaux libertaires et indépendantistes. Le débat d'une unité de l'Italie naît sous un prisme artistique et culturel. En se basant sur les œuvres des grands esprits de la Renaissance, Dante ou Michel-Ange, pour n'en citer que deux, l'émergence d'une volonté d'indépendance occupe les esprits. Dès la période des Lumières, ce sentiment se renforce et se diffuse. L'occupation française n'y change rien. On parle de plus en plus d'unification culturelle dans le pays. Dans certains cercles aristocratiques et intellectuels, on murmure déjà le nom de Risorgimento, une traduction littérale du mot Renaissance. Si on évoque en premier lieu cette résurgence de l'art italien, le terme ne tarde pas à se draper d'un sens plus politique. La France révolutionnaire, puis impériale, n'y est pas étrangère. Napoléon apporte en Italie une certaine idée du parlementarisme et du débat public. Les esprits développent une conscience politique. Le drapeau tricolore transalpin, vert, blanc, rouge, est un acquis de cette période, lui qui naît en 1797. Les balbutiements d'un patriotisme à l'italienne se développent donc dès l'occupation napoléonienne. Le mouvement se poursuit avec force lors du retour des Autrichiens en 1815. Son expression n'est pourtant encore que locale et ne parvient pas à s'étendre au niveau national. Des mouvements indépendantistes cherchent à mener des actions contre l'occupant. La charbonnerie, basée à Naples, devient un fer de lance. Ses membres gagnent en importance dès 1815. Son but est politique. Ils veulent révoquer l'autoritarisme autrichien pour aller vers une nouvelle forme de libéralisme. Et mieux, unifier le territoire. Pour les aider, ces libéraux, avides d'unité, s'appuient sur l'art comme un retour premier au sens de Risorgimento. Les littéraires romantiques italiens, surtout à Milan, diffusent l'idée d'une nation unie et puissante. Manzoni en est l'un des plus vifs représentants, notamment avec son œuvre « Les fiancés ». Bientôt, la puissance de la charbonnerie et des autres sociétés secrètes de ce type devient exponentielle. Et les premiers heurts, eux, ne tardent pas. En 1820, l'Espagne connaît une révolte libérale. Ce qu'il se passe dans la péninsule ibérique fait des émules. Au sein du royaume des deux Siciles, des militaires engagés décident de se lancer dans une véritable révolution. La charbonnerie est au cœur de ce soulèvement qui appelle à la liberté du peuple et à l'instauration d'une constitution. Le feu de paille se transforme en brasier. Après Messine ou Catane, c'est la capitale Naples qui est prise d'assaut par les insurgés. Le roi en place, Ferdinand Ier, doit céder en proposant des aménagements politiques. Ils n'auront pas lieu. L'Autriche envoie une armée rétablir l'ordre. En réaction, c'est une partie de la population du Piémont au nord qui prend les armes. Elle force le roi Victor Emmanuel Ier à abdiquer. C'est le choc dans l'Europe des monarchies. Mais là encore, l'Autriche ne laisse pas passer et réprime la révolte dans le sang. Chaque fois, les mesures libérales sont abrogées et les révoltés punis de mort. Ils sont des milliers à devoir prendre la route de l'exil dans le reste du continent, mais pour un temps. En 1831, alors que la France vient de renverser les Bourbons lors des Trois Glorieuses, une révolte éclate de nouveau dans toute la botte. Les états pontificaux sont même renversés est remplacé par une république dont la capitale devient Bologne. Mais le scénario se répète. Le pape, enfermé dans Rome assiégé, appelle l'Autriche à l'aide. Le résultat est le même qu'une décennie plus tôt. La révolte est matée dans le sang. Au sortir de ces échecs répétés, les intellectuels patriotes doivent se rendre à l'évidence. Leur impréparation est criante. Plus encore, les soulèvements n'ont pas fonctionné. Les classes populaires ne suivent pas le mouvement. Les théoriciens de l'indépendance italienne vont devoir revoir leur copie, au risque de subir encore et toujours de nouvelles désillusions.